Cette émission vous est présentée par Holisma, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.
Bonjour Florian.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va Florian cette semaine?
Ça va plutôt bien. Le printemps a plus que commencé et tout va bien. On commence à voir des petites fleurs, il fait bon.
Vous n'êtes pas allergique?
C'est bien agréable, ça donne plein d'énergie.
Vous n'êtes pas allergique vous d'ailleurs Florian?
Si, si, j'ai une petite allergie depuis quelques années. Mais ça pourrait être l'occasion d'une émission d'ailleurs, les allergies. J'ai pas été allergique, je m'en suis presque vanté pendant des décennies, et depuis 4 ou 5 ans, et c'est beaucoup lié, je pense, à mon mode de vie, parce que je cours beaucoup, même si je me fais du bien et que j'essaie de faire très attention, mais je suis aussi victime de l'accélération du temps, et peut-être aussi d'une explosion d'allergènes dans l'atmosphère depuis que le climat s'en mêle, parce que là, il paraît qu'effectivement, il y a une vraie recrudescence depuis quelques années de la quantité d'allergènes qui arrivent plus tôt, et qui arrive de manière plus massive à cause du réchauffement climatique.
Exactement, ce qui fait qu'on est inflammé plus longtemps et on connaît les dégâts de l'inflammation sur l'organisme. Mais c'est un autre sujet, mon cher Florian. Et il paraît que les thermes ou la médecine thermale peut être excellente dans le cadre d'allergies. Et mesdames, messieurs, ça, c'est peut-être une transition hasardeuse parce qu'en fait, je n'en sais rien. Mais c'est pour être dans la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière, de ce que Florian vous a transmis sur les thermes. On a parlé du thermalisme et là, on va aller sur le thermalisme et la médecine thermale. C'est bien cela, Florian?
C'est ça, on va passer plus de l'idée du thermalisme à l'idée de la médecine thermale, même si évidemment les deux sont très proches, mais c'est pour accentuer le fait que le thermalisme est de plus en plus médicalisé et qu'il s'est de plus en plus illustré par ses bénéfices santé et par les études scientifiques qui ont pu démontrer son intérêt.
Alors, Florian, avant que vous ne démarriez, puisque je pense que l'histoire est tellement intéressante qu'on va marquer une pause maintenant, ce qui va vous permettre de dérouler tranquillement le contenu. Il faut savoir que Florian Petitjean, vous cuisine ça, si vous voulez, c'est de la cuisine gastronomique. C'est l'équivalent d'un chef 3 étoiles parce que c'est aux petits yeux, rien n'est laissé au hasard. Embarquez-vous dans cette aventure pour connaître en détail le thermalisme, la médecine thermale avec des exemples assez concrets cette semaine, il me semble.
Oui, on va pas parler d'histoire, on va un peu moins parler d'histoire, peut-être qu'on y reviendra, mais a priori, on va plus parler du contenu de l'eau et de la médecine, en l'occurrence.
Et donc, ce sera dans un instant sur Nutri Radio, restez avec nous.
Découvrez Holisma, engagé pour une santé intégrative. Mariant phytoaromathérapie et cosmétiques thermales, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Holisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.
Florian Petitjean, pour évoquer cette semaine la médecine thermale. Parce que quand on se rend dans le terme des fins thérapeutiques, c'est ce qu'on appelle la médecine thermale. Et alors, vous avez parlé d'histoire la semaine dernière, Florian. Et il me semble, là c'est à la volée, mais que Budapest particulièrement, qui était autrefois romaine, est bien connue encore pour ses thermes. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Mais toute l'Europe de l'Est, je dirais que c'est le berceau, en fait, non pas du thermalisme tel qu'on le voit en France, mais de l'hydrothérapie, et notamment des fameuses cures d'eau, d'air et de soleil dont on a parlé déjà la dernière fois, et puis surtout quand on a parlé de la naturopathie. Au tout départ, comme je l'ai évoqué, là du coup vous me rembarquez sur l'histoire.
Ah oui, mais rapidement.
Mais c'est pas grave, très rapidement. En fait, quand Kneipp est allé se baigner dans le Danube pour soigner sa tuberculose, et donc du coup stimuler son corps par la fraîcheur de l'eau, et puis par tous les exercices qu'il faisait à côté, en fait il ne l'a pas inventé, et ça venait d'autres médecins et de littérature en fait auxquelles il avait eu accès, et notamment j'en pense à l'un d'entre eux, et qui était je crois en Hongrie, ou en tout cas en Allemagne, en Europe de l'Est, et un dénommé Prichnitz, qui était un précurseur de Kneipp sur l'usage en fait de l'eau froide à des fins thérapeutiques. Et puis bien sûr, après, il y a toute la tradition autour de l'eau, mais je ne vais pas refaire l'émission de la semaine dernière. Évidemment, dans ces pays-là, il y a beaucoup, beaucoup de stations thermales. En Europe, c'est l'Italie, évidemment, là où il y a le plus de stations thermales et de sources. Et l'Europe de l'Est, l'Allemagne en particulier, en a beaucoup, et puis bien sûr la France.
Il est incollable, ce Florian. Alors, puisqu'on parle de médecine thermale, c'est aussi dans un but curatif, mais aussi préventif.
Alors oui, et très clairement, les eaux thermales, si elles ont été beaucoup utilisées à des fins thérapeutiques, comme j'ai pu l'expliquer, c'était très empirique, hein, on voyait tout simplement que la peau cicatrisait, que la tuberculose se portait mieux, même si on continuait évidemment à en mourir, hein, la tuberculose et les antibiotiques, mais l'air, le grand air, l'eau, le soleil, l'altitude a beaucoup aussi aidé des tuberculeux. Et bien sûr, depuis quelque temps, on se rend compte qu'il y a un véritable intérêt aussi en prévention. Mais déjà, peut-être, si on regarde dans sa perspective thérapeutique, plus spécifiquement, en fait, il faut considérer deux aspects. Il y a deux aspects principaux à prendre en compte dans le thermalisme. Déjà, c'est les propriétés de l'eau. Et ça, c'est finalement assez nouveau. Quand je dis nouveau, c'est au travers de l'histoire. J'évoquais les chimistes de la Renaissance, notamment, qui ont commencé à étudier la composition de l'eau. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait des minéraux à l'intérieur. Et après, ils ont analysé les minéraux pour voir qu'il y avait plein de choses dedans, finalement. Donc, les propriétés d'une eau thermale varient, évidemment, en fonction de leur minéralité. On va y revenir parce que ça a beaucoup d'intérêt et puis en même temps c'est intéressant également sur un plan plus géologique là pour le coup, parce que d'où viennent ces minéraux, c'est assez intuitif, hein, ça vient des roches, mais comment, on va y revenir. Et puis le deuxième aspect, qui est l'aspect initial finalement, c'est l'eau elle-même, sa température, mais après, depuis que le thermalisme est devenu une médecine thermale, ce sont tous les protocoles en fait qui vont être utilisés avec ces outils, qui sont des outils thérapeutiques, là, pour le coup. Les différents types de douches, les différents appareils, vous pouvez faire, vous pouvez soigner, par exemple, des lymphœdèmes. Je prends l'exemple d'une personne atteinte d'un cancer du sein, à qui on a enlevé la chaîne ganglionnaire au niveau du bras, par exemple. Eh bien, il y a des appareils spécifiques, en fait, qui vont aider à cette personne à ce que ça ne crée pas trop d'œdème, en tout cas que ça lui fasse, que ça soigne également le fait que cette chaîne ganglionnaire va moins, vu qu'elle n'est plus là, va plus drainer la lymphe au niveau des tissus. Donc il y a vraiment des applications thérapeutiques avec des outils qui ont été spécifiquement développés pour le thermalisme. Ça va au-delà des douches et des bains. Il y a aussi les enveloppements, même avec des algues. Il y a une particularité aussi, d'ailleurs, que j'aurais pu souligner dès le départ, c'est que quasi systématiquement, autour des stations thermales, vous avez des bains où l'eau, finalement, stagne, comme dans des piscines. Et il y a ce qu'on appelle des conferves, comme une conserve, mais avec un F, qui sont des algues, en fait, qui sont spécifiques, en fait, de cette eau thermale. Vous ne les retrouvez nulle part ailleurs. Ce sont vraiment des algues endémiques, en fait, dans un bassin. Et souvent, en fait, ces algues sont également utilisées pour faire des enveloppements et pour faire comme des cataplasmes sur le corps, avec également des effets sur l'apaisement de la douleur, par exemple, ou l'inflammation. Et puis, bien sûr, vous avez un personnel de santé qui a été spécialement formé à ce qu'on appelle la crénothérapie. La crénothérapie, c'est vraiment l'ensemble des techniques, en fait, qui sont mises en œuvre pendant une cure thermale. Donc, ça va de l'hydrothérapie externe, en passant par les douches, comme je disais, les applications de boue, d'algues, les pulvérisations, les massages, tous ces outils-là, ça forme en fait une technique qui s'appelle la crénothérapie. Et qui donc, là, en l'occurrence, permettent de prendre en charge des pathologies, dont certaines sont remboursées en partie, bien sûr, par la sécurité sociale. Alors, je parlais de leur minéralité, en fait, de leur composition. Et ils sont catégorisés, en fait, toutes ces eaux thermales selon la matière qu'elles enferment, donc ces minéraux, ces oligo-éléments, ces métaux. On va les classer selon qu'elles ont, par exemple, beaucoup de soufre. Donc, on va dire que ce sont des eaux sulfurées. Il y en a d'autres qui vont être des eaux sulfatées. On parle d'eau chlorurée, chlorurée sodique, bicarbonatée, si vous avez beaucoup de bicarbonate, oligométallique, en fonction de leur composition. Et de cette composition, ça va donner lieu en fait à des spécificités physico-chimiques qui, effectivement, ces minéraux vont passer au travers de la peau et vont évidemment apporter aussi tous leurs bénéfices. Et comment ça se passe, en fait, pourquoi ces différentes compositions, bon, ça paraît assez logique, hein, c'est bien sûr lié en fait à la géologie et aux roches et aux sédiments qui sont traversés par l'eau de pluie, qui tout au long de son voyage, c'est des fois plusieurs centaines d'années, eh bien, au contact de la roche, de petites infiltrations, en grosses infiltrations, jusqu'à des rivières souterraines, vont puiser dans les roches en fait et dans les sédiments tous ces précieux minéraux et ces oligo-éléments. Alors évidemment, ça va dépendre de la durée de ce voyage de l'eau dans les roches, mais ça peut aussi dépendre, par exemple, de sa température, parce que vous avez des eaux qui sont très profondes, et donc qui vont être très chaudes, puis vous allez avoir des eaux thermales qui seront moins profondes, plus superficielles, et qui seront moins chaudes. Bon, c'est comme quand vous faites un... Si vous faites un café avec de l'eau froide, bah, ça ne va pas être très bon, il ne va pas y avoir grand-chose d'extrait dans l'eau, alors que dans une eau chaude, vous allez extraire un maximum d'éléments. Et bien, c'est pareil pour les roches, la chaleur va faire aussi qu'elles vont d'autant plus puiser dans les roches. Et puis bien sûr, ça va dépendre aussi de la nature même des roches qu'on va traverser et puis de leur solubilité. Donc la température aussi, on la catégorise, vous avez des eaux qui sont dites hypothermales, qui vont en principe sortir, on prend la température à la sortie de ce qu'on appelle le griffon c'est le point d'émergence de l'eau. Donc vous avez des eaux qui vont être entre 15 et 34 degrés, et puis si elles font entre 35 et 49 degrés, elles sont en température moyenne, on va dire qu'elles sont mésothermales. Et puis après, vous avez toutes les eaux thermales qui sont plus rares, qui sont dites hyperthermales, parce que là, elles sortent à 50 degrés. Alors là, c'est un phénomène inverse dans les thermes, c'est que vous refroidissez l'eau avant de mettre les gens dedans, parce que vous imaginez, vous baignez dans un courant ou dans un bassin ou avec des jets avec une eau à 50 degrés, ça aurait tendance à vous peler plus qu'à vous faire du bien. Et souvent, et c'est ce qui se passe de plus en plus, c'est que cette eau, en fait, ces calories, pour être, quand l'eau est refroidie pour l'écurie, les calories sont réutilisées pour chauffer les bâtiments, voire la piscine municipale, comme c'est le cas en l'occurrence à Évaux-les-Bains. Moi, je suis fasciné, en fait, souvent quand moi j'y vais assez régulièrement, parce que c'est un endroit auquel je suis très attaché pour plein de raisons, professionnelles et personnelles. Imaginez, il y a 300 ans, il pleut, vous avez une goutte d'eau, une goutte de pluie qui perle sur le visage de Voltaire, je le citais la semaine dernière, ou Louis XV, par exemple, il y a 300 ans, c'est à peu près ça. Et alors qu'ils étaient dans le Massif central, elle tombe au sol. Elle pénètre dans la terre, elle s'infiltre dans les sédiments, elle glisse entre les roches jusqu'à retrouver d'autres gouttes de pluie, puis des petits ruisseaux souterrains, jusqu'à retrouver des rivières souterraines. Et puis après, de creuser dans les roches profondes, à quelques centaines de mètres sous terre, de puiser ces minéraux. Eh bien, en fait, cette goutte d'eau là qui a perlé sur Voltaire, eh bien, peut-être que c'était la semaine dernière ou la semaine prochaine, si vous vous promenez à Évaux et que vous allez faire un bain, peut-être que vous allez être en contact avec cette eau, parce qu'elle a mis 300 ans, en fait, cette goutte d'eau pour rejoindre les copines et devenir un jet qui sort au griffon. C'est ça, en fait, le voyage de l'eau pour devenir une eau thermale. Et typiquement, quand vous allez prendre, par exemple, des sols qui sont très riches en quartz, eh bien, vous allez drainer un maximum de silicium, qui définit beaucoup en fait la composition du quartz. Et bien, le silicium, on sait qu'il est très bon pour la cicatrisation. Et bien, quand vous allez retrouver ça dans une eau thermale, et bien, ça va donner une indication thérapeutique validée par l'Académie de médecine sur, par exemple, la cicatrisation pour telle ou telle eau. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça aussi que le thermalisme s'est enrichi de ces outils et de ces propriétés qu'on a compris en fait de la composition des eaux pour devenir une médecine thermale.
Voilà, c'est passionnant, vous avez compris pourquoi on a fait une petite pause juste avant, comme ça Florian, vous avez pu dérouler et nous expliquer tout cela. On marque une dernière pause justement et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission La Santé c'est tout sur Nutri Radio.
La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.
Florian Petitjean sur Nutri Radio, la santé, c'est tout. Alors évidemment, vous nous donnez envie d'aller faire une cure thermale et vous nous avez dit tout à l'heure, et c'est ce que j'ai retenu aussi, qu'elles étaient remboursées par la Sécurité sociale. Est-ce qu'elles sont toutes prises en charge par la Sécu? C'est cure, est-ce que ça fonctionne pour tout?
Tout n'est pas pris en charge. Vous ne pouvez pas vous pointer chez votre médecin en disant je vais faire une cure thermale et puis vous la prescrivez. Non, il y a des conditions, il y a plusieurs conditions. Il y a déjà, il faut qu'elle fasse partie d'un ensemble d'orientations thérapeutiques qui sont prises en charge. Enfin, ça, c'est large. Hein. Je ne vais pas toutes les citer, il y en a une douzaine. Mais les plus courantes, ça va être les affections psychosomatiques, beaucoup, je pense au burn-out, par exemple, qui est de plus en plus pris en charge dans le cadre des affections, dans le cadre des cures thermales, pardon. Il y a, je pense, au terme de Saujon, par exemple, qui est très orienté sur ça, ou à Nancy également. Vous avez bien sûr la dermatologie. Bon, la dermatologie, on connaît, hein, on va les citer. On ne cite jamais de marque, mais on va en citer trois. On va citer La Roche-Posay, Avène, et puis Évaux-les-Bains, par exemple. Vous avez la gynécologie, qui est aussi une indication importante. J'évoquais les femmes atteintes de cancer du sein. Il y a toute une série, en fait, de pathologies, en fait, de la gynécologie qui sont prises en charge à la suite de traitements anticancéreux. La rhumatologie, qui a probablement l'indication la plus importante, la plus courante, on va dire, dans les stations thermales. On la retrouve dans plein de cures, à Évaux-les-Bains aussi, comme j'expliquais. Et puis après, vous allez aller à Luchon, par exemple, dans les Pyrénées. Ça va être des stations thermales qui sont utilisées, recommandées ou connues pour les voies respiratoires. Vous parliez d'allergie, par exemple, tout à l'heure. Ben oui, effectivement, il peut y avoir... Alors, je ne sais pas s'il y a des études sur l'allergie, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, il y a des stations thermales qui sont plus basées sur les voies respiratoires. Très clairement. Après, vous avez donc ça, c'est les 12 orientations. J'ai pas tout évoqué. Hein. Il y a aussi la bouche, les affections urinaires, etc. Mais ce sont des grandes orientations. Puis après, il y a vraiment des pathologies très spécifiques qui, dans ce cadre de ces orientations thérapeutiques, vont être prises en charge.
Alors, est-ce que c'est vraiment efficace?
Oui, bien sûr que c'est efficace. Je souris parce que c'est souvent ce qui est opposé à la médecine thermale en disant oui, bon, en l'occurrence, les gens ils vont passer 3 semaines de cure parce que c'est 3 semaines une cure, et sauf le dimanche, donc ça fait 18 jours en fait de cure et aux frais de la princesse. Oui, bon, enfin pas tout à fait parce qu'il n'y a qu'une partie des soins qui sont pris en charge. Et quand vous vous engagez à partir 3 semaines en cure, l'hôtellerie c'est vous qui la payez, et puis il y a une partie des soins que vous payez, et puis comme les soins eux-mêmes ne sont pas totalement pris en charge, et ben en fait vous êtes remboursé de quelques centaines d'euros, mais de loin pas de la totalité. Pour autant, c'est resté toujours très accessible, les stations thermales, sauf certaines qui sont devenues un peu plus luxueuses, on va dire, mais globalement ça reste très accessible. Et non seulement c'est efficace, j'évoquerai un cas particulier, mais on dit que 6 à 9 mois après une cure, les patients, et des fois même un peu plus longtemps, mais souvent c'est entre 6 et 9 mois, les patients en ressentent encore les bienfaits, au point qu'ils vont, ils ont une meilleure qualité de vie, je pense plutôt à des seniors en l'occurrence, qui ont des problèmes rhumatos par exemple. Et c'est aussi pour ça qu'on peut rembourser une cure par an, parce qu'on considère qu'effectivement ça peut vraiment aider à passer une année, alors là je parle de 6-9 mois, mais dans certains cas il y a encore plus de rémanence, pour aller à une deuxième cure. Et ça a vraiment de l'intérêt parce que ça peut économiser des médicaments, parce que du coup il y a une diminution souvent aussi de l'utilisation ou de la prescription médicamenteuse grâce aux cures thermales. D'ailleurs, avant de venir sur mon exemple spécifique, je vous posais la question sur la prise en charge. Au-delà d'y avoir des orientations, il faut qu'il y ait des objectifs thérapeutiques spécifiques aussi. Et parmi ces objectifs thérapeutiques, il peut y avoir la réduction de la consommation de médicaments. C'est-à-dire un médecin, par exemple, va considérer que sa patiente ou que son patient a trop de médicaments, et il va tenter le coup, c'est peut-être la première fois dans son cas, cette patiente, de l'envoyer dans une station thermale avec objectif justement de la soulager dans sa prise de médicaments. Et puis après, il y a aussi dans les objectifs thérapeutiques, ça va être l'amélioration des symptômes, l'amélioration de l'autonomie ou de la qualité de vie, et la prévention, la diminution des douleurs. Ça, c'est un vrai gros sujet, souvent en lien avec la rhumato, pas que, mais souvent en lien avec le rhumato. Et c'est vrai que la douleur a été un sujet très étudié et qui est en l'occurrence très intéressant. Je pense notamment au cas de la fibromyalgie. On la surnomme, alors la fibromyalgie, tout le monde en a déjà entendu parler, tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est, puis finalement même les médecins, on a un peu du mal à la définir, c'est un syndrome. On dit d'elle que c'est la maladie aux 100 symptômes, donc c'est dire, hein, et c'est, on l'appelle aussi la maladie du mal partout, mal tout le temps. Alors ça se caractérise vraiment par un état chronique de douleur, neuropathique, articulaire, de jour comme de nuit. Des douleurs musculaires également, des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, de l'épuisement, des troubles de la concentration. Enfin, c'est souvent lié aussi à des problèmes d'anxiété, pardon, ou de dépression. Enfin, c'est un vrai handicap, hein, à souffrir de fibromyalgie. C'est très douloureux, c'est très compliqué. Ça a des impacts sur non seulement la qualité de vie, mais la vie au quotidien, très significatif. Et pour autant, son origine est vraiment très, très mal connue. On pense qu'il y a des prédispositions génétiques, mais que c'est beaucoup lié au mode de vie, beaucoup lié aussi au stress, à des chocs aussi, à des chocs psychologiques. C'est 2% de la population, et c'est typique en fait de ce qu'on dit être une maladie de civilisation, parce qu'elle est plus spécifiquement connue dans les pays occidentaux, en l'occurrence. Et bien là, en l'occurrence, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas vraiment de traitement pour la fibromyalgie. Certains médecins vont donner des antidépresseurs, on va donner des antifatigues. De plus en plus d'interventions non médicamenteuses sont utilisées. Je pense à la méditation, enfin, tout ce dont on a parlé depuis toutes ces émissions qu'on fait ensemble, et le thermalisme, qui est recommandé d'ailleurs par différentes sociétés savantes. Et même l'assurance maladie en parle pour améliorer la qualité de vie d'une personne qui en souffre dans le cadre d'une prise en charge globale et personnalisée. Ça fait du bien d'ailleurs d'entendre ou de voir sur le site de l'assurance maladie de parler de prise en charge globale et personnalisée pour justement accompagner une personne qui en souffre, avec derrière le soutien psychologique. Parce que c'est ça aussi, le thermalisme, c'est que vous êtes pris en charge, en fait, quand vous arrivez le jour de la première consultation, à part le médecin thermal, il fait un bilan complet, en fait, sur la base de toute l'historique médicale, et puis il va vous proposer un parcours avec différents outils techniques dont j'ai parlé. Il va pouvoir proposer aussi d'autres activités. Et puis, il peut y avoir aussi un accompagnement psychologique, parce que voilà, c'est une vraie pause, en fait, dans la vie d'une personne malade, qui va permettre aussi, peut-être d'économiser des antalgiques, souvent, ou même des antidépresseurs. Il y a plein d'études cliniques qui ont été développées dans ce cadre-là, au point que la Société savante européenne du rhumatisme, qui s'appelle l'EULAR, recommande aujourd'hui, et là je le cite, je vais donc lire, les soins de cure thermale. Donc elle recommande désormais les soins de cure thermale en les inscrivant dans une approche pluridisciplinaire en complément de la balnéothérapie et de la remise à l'effort. Et elle conclut que l'hydrothérapie face à la fibromyalgie ne fait pas de doute. Bon, voilà, je crois que les choses, elles sont relativement claires. Oui, il y a énormément de démonstrations des bénéfices du thermalisme, même si c'est difficile de trier finalement les bénéfices uniquement de l'eau, uniquement des soins ou de cette prise en charge globale. Mais soyons pragmatiques, même si c'est effectivement l'ensemble qui fait toute la différence, eh bien c'est l'ensemble, c'est la somme de toutes ces parties. Et donc la qualité de l'eau et la pratique, l'accompagnement fait partie de cet accompagnement global qui est propre au thermalisme et à la médecine thermale.
Alors, on est très en retard. Pour terminer l'émission, Florian, l'avenir, c'est quoi l'avenir du thermalisme ?
L'avenir du thermalisme, c'est un thermalisme intégratif, je dirais. On le voit de plus en plus, et c'est la prévention. De plus en plus de personnes aujourd'hui, et les stations thermales se développent de plus en plus justement dans un mode préventif, en développant, en plus des parcours de soins, des parcours de santé, pour soit faire de la prévention secondaire ou tertiaire pour diminuer le risque de rechute ou l'aggravation de certaines maladies, mais il y a aussi de plus en plus de parcours en fait qui sont proposés, non pas en 3 semaines, mais en 1 semaine par exemple, à des gens qui peuvent venir en famille pour faire de la prévention, parce que le thermalisme c'est vraiment ouvert. C'est pour ça que je dis qu'il est intégratif. C'est que maintenant vous voyez de plus en plus en fait de stations thermales qui, au-delà de faire les soins thermaux à base d'eau, au-delà d'offrir en fait un environnement propice à un peu à la déconnexion, vont aussi proposer du yoga, de la méditation, du tai chi, du shiatsu, de la réflexologie et j'en passe, de la naturopathie, pour justement s'imposer de plus en plus comme une pratique pluridisciplinaire qui offre une prise en charge globale. Et avec un pied thérapeutique et un pied préventif. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là, on peut parler de néo-thermalisme, c'est vraiment la nouvelle vision du thermalisme, du développement du thermalisme, qui va donc associer à côté de cette station thermale médicalisée, des centres de bien-être, des séjours de revitalisation, où je vous invite tous à aller aussi pour vous reconnecter souvent à la nature, comme à vous-même, parce que c'est globalement et généralement des endroits qui sont assez inspirants, surtout quand ils sont vraiment dans la nature et pas au milieu de la ville, même si ils sont souvent très chouettes également. Quand ils sont au milieu d'un village. Voilà, je vous soulage.
Ben non, vous ne soulagez pas. Oui.
C'est un sujet passionnant, le thermalisme. On pourra en faire encore quelques émissions, mais on a fait un bon tour, là, Fabrice.
Ah oui, c'était très intéressant. Et puis, si on n'avait pas l'idée d'en faire, là, je peux vous dire qu'on a que ça en tête. On se dit, mais oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, et hop, allons-y.
Eh bien, je vous propose qu'on aille se faire une petite retraite tous les deux, et puis avec les auditeurs qui nous entendent et qui nous écrivent un mail, s'ils veulent, on s'organise un petit moment de détente quelques jours dans une station thermale en plein cœur de la France.
D'accord, tous en terme, très très bonne idée pour rester aussi en bon terme, Florian.
Bravo.
Mais oui, vous savez, moi, dès qu'il y a un petit jeu de mots facile, je me régale. Ça fait depuis 2 semaines que j'y pense jour et nuit. Quand est-ce que je le place au début, à la fin? J'ai attendu la fin. Et donc, merci d'avoir été avec nous. Cette émission, vous allez la retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche. Merci, Florian. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, Fabrice. À bientôt, à la semaine prochaine.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Dans un instant, c'est le docteur Jacques Bassier pour Objectif Physio Nutrition sur Nutri Radio.
La santé, c'est tout. Florian Petit-Jean sur Nutri Radio.